La période de Pâques a un effet ravageur sur l'église, dans le sens que beaucoup sont partis en vacances et nous sommes moins nombreux ce matin. Mais espérons que leurs vacances leur apportent du repos et qu'ils nous reviennent avec plus de force et d'entrain. Vous avez entendu le verset que notre frère Samuel a lu, Marc chapitre 14, verset 12 au verset 17. Les premiers jours des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Le calendrier juif commence avec une fête. En Exode chapitre 12, verset 1 et le suivant, c'est là que Dieu va donner l'envoi à l'année juive, avec leur libération. Et la fête, Pessah, ce que nous avons traduit par Pâques, est-ce que vous vous rappelez ce que cela veut dire? Il y a plusieurs significations, toutes proches les unes des autres. Il y a la signification passage, il y a aussi la signification épargné, dans le sens d'avoir été épargné. Ça a aussi une signification, une connotation d'immunité. Par exemple, quelqu'un qui a reçu une immunité concernant une peine. Pessah restait et reste de toute façon une célébration de réjouissance, car ceux qui célèbrent reconnaissent qu'ils ont eu la vie sauve. Ils reconnaissent qu'ils ont été épargnés, qu'ils ont été délivrés de la mort. Quelque part, c'est la fête de la libération. Et voilà, c'est une fête de la libération, mais c'est quand même particulier parce que il y a cette information même dans le mot Pessah, dans ce qu'il faut faire, la libération. J'étais sauvé de la mort, mais c'est pas été sauvé de la mort comme ça. C'est pas moi qui ai vaincu la mort. C'est pas moi qui ai mérité la libération. Si j'ai été sauvé de la mort, c'est qu'elle a frappé quelqu'un d'autre. Et qu'en me délivrant, cette autre personne est morte. Cette notion est très forte. Donc, voyez, à Pâques, la vie est célébrée. La nouvelle vie est célébrée sans pour autant oublier que nous pouvons la célébrer, mais qu'elle a été payée au prix fort. Du sang a été versé. Une vie a été donnée. Un sacrifice a eu lieu. Vous savez à quoi cela faisait référence le mot Pessah dès le départ? On a traduit Pâques, mais à quoi ça fait référence? Oui, on a donné la définition, mais ce mot était appliqué à quelque chose. Si vous reprenez l'évangile de Marc au chapitre 14, vous allez voir, le premier jour des pains sans levain où l'on sacrifiait, ma traduction dit, l'agneau pascal. Est-ce qu'il y a d'autres traductions parmi vos Bibles? Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque. L'agneau qui devait être sacrifié lui-même était appelé la Pâque. Pessah. Si vous allez voir dans le livre d'Exode chapitre 12 verset 21, c'est déjà comme ça. Moïse l'a déjà exprimé directement de la sorte et on a conservé cette façon de le comprendre. L'agneau, pendant Pâques, c'est lui qui s'appelle la Pâque. Donc Exode chapitre 12 verset 21. Moïse appelle à tous les anciens d'Israël et leur dit, allez vous procurer du bétail pour vos clans. Je saute un peu et après je lis, et égorgez la Pâque. Donc, Moïse appelle déjà l'agneau la Pâque pour le Seigneur. Le sacrifice de l'humanité, finalement. C'est la même chose dont les disciples parlent. L'agneau de Pâques était lui-même Pessa. Pâques. Voilà que les disciples, comme tous les juifs, étaient habitués à cette fête, à cette célébration. Depuis qu'ils étaient petits, ils avaient vu leurs parents, les parents de leurs parents, et s'ils avaient eu la chance, encore leur arrière-grand-parent. Et à chaque fois, chaque année, dans le mois de Nissan, les premiers mois de l'année, les 14e jour de Nissan, ils célébraient la Pâque. Et ils voyaient les parents, toutes les familles, préparer cette célébration. Ils savaient par cœur ce qu'il fallait faire. Et lorsque le jour est arrivé, c'est la façon la plus naturelle qu'ils vont dire à Jésus, « Mais où est-ce que tu as vu qu'on aille préparer la Pâque ?» Où est-ce que tu as vu qu'on aille préparer l'agneau? Où est-ce que tu as vu qu'on aille égorger l'agneau pour la célébration? Je reprends dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets du 12 au 27, du 22 au 27, Exode 12, du 22 au 27, les instructions que Dieu a données. Vous prendrez une touffe d'hysope, vous la tremperez dans du sang du bassin, vous appliquerez au linteau et au doux montant le sang du bassin. Et personne d'entre vous ne franchira la porte de sa maison jusqu'au matin. Vous rappelez quel est le contexte. Ils doivent être délivrés, ils doivent sortir d'Égypte, ils doivent célébrer la Pâque, donc égorger l'agneau, et avec l'hysope, des plantes, donc les tremper dans du sang, et avec ça marquer le contour de la porte, qui était en bois, le montant et le linteau. Et ils devaient entrer dans la maison et y passer toute la nuit. Ne pas sortir, parce que cette nuit-là était une nuit de libération, mais aussi c'était une nuit liée à la mort. Le Seigneur, je reprends, le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, et il verra le sang sur le linteau et le doux montant. Alors le Seigneur passera devant la porte, et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez tout cela. C'est un décret pour toi et pour tes enfants, à jamais. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il a dit, vous observerez ce rite. Quand vos fils vous diront, qu'est-ce que ce rite que vous faites? Vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur. Lui passa devant les maisons des fils d'Israël en Égypte, quand il frappe à l'Égypte et délivre nos maisons. C'est un événement très fort. Libération, vie, mais au prix aussi d'une autre vie. Donc, voilà, les disciples sont habitués à cela. Les disciples veulent préparer la Pâque pour Jésus, pour leur maître. Ils ne sont plus à leur maison, donc ils doivent allégeance à Jésus. C'est à lui qu'ils vont demander. Où est-ce qu'on prépare la Pâque? Entendons par là l'agneau. Si on fait un peu une liste des éléments de cette fête, il y a l'amertume, il y a le sang, il y a la mort, il y a le sacrifice. C'est tout de même des drôles d'ingrédients pour célébrer une fête. Et ça reste une fête. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous rappelez quel est le jour du débarquement? Le 6 juin 1944, les Américains débarquent, les Alliés débarquent. Et ça va signer le début de la délivrance de l'Europe, de la Deuxième Guerre mondiale. 6 juin, c'est très bien. Est-ce que vous savez quand est-ce que les Alliés ont atteint la frontière belge? Il y a des Belges dans l'Assemblée? Ils débarquent en Normandie, ils s'avancent. Quand est-ce qu'ils sont arrivés en Belgique? Quand sont-ils arrivés sur Bruxelles? Mais ils atteignent la frontière belge le 1er septembre. Ils sont mis un peu de temps. Le 1er septembre, ils entrent, et une fois qu'ils entrent, ça va aller très vite. 1er septembre, à Belgique, Après, ils s'avancent. 12 jours après, ils sont à Bruxelles. Après, ils vont aller très rapidement vers l'Hollande, etc. C'est une armée de libération. Maintenant, si le 6 juin, le débarquement a eu lieu, si le 1er septembre, les troupes arrivent en Belgique, et le 3 septembre, elles arrivent à Bruxelles, qu'est-ce qu'on fait le 21 juillet? L'indépendance de la Belgique. C'est la prestation du serment. C'est la journée qui commémore le serment prêté par le premier roi des Belges, Léopold de Saxe-Cobourg. Et il a prêté serment quand? 1831, quelle date? Il est calé, Claude, hein, avec les dates. Donc, rappelez-vous, on célèbre en Belgique le serment prêté par le roi le 21 juillet, mais ce serment a été prêté le 18 juillet. Et il faudra attendre le 27 mai 1890 pour que ça devienne officiel, que ça va être le 21 juillet. C'est quand même une histoire à la belge. Hein? On célèbre le 21, mais le serment a été prêté le 18, mais ça a été décidé le 27 mai, que ça allait être le 21 juillet. Voilà, c'est particulier. Mais avec tout ça, on oublie, on ne célèbre plus la délivrance de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on se rappelle de la date, mais des fois, cette date n'est plus que une date. Une journée fériée au mieux. Et on est content parce qu'on ne doit pas ou aller à l'école ou travailler pour ceux qui n'ont la chance. Il arrive qu'à force de répéter certains gestes, les gestes perdent leur valeur. On arrive à les intégrer tellement dans le quotidien que finalement on vit la chose, ça n'a plus de sens. Oui, il y a eu quelque chose, oui, il y a des personnes qui sont mortes, quand même pas mal, pour que je puisse être libre aujourd'hui. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, ça ne me sert qu'à avoir un jour libre, un jour férié. Je ne sais pas dans quel esprit les disciples, eux, s'apprêtaient à préparer la Pâque. Je ne sais pas s'ils sont demandés à Jésus, où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque, en ayant à cœur la signification réelle, profonde, de ce qu'ils devaient faire. Je ne sais pas s'ils étaient en mesure de comprendre l'émotion que pour leur ancêtre, cela avait été cette nuit-là. Ils avaient dû égorger pour la première fois la Pâque, l'agneau, tacher les portes, le bois de porte avec du sang et rester à l'intérieur en espérant par la foi qu'ils allaient être épargnés. Et je ne sais pas s'ils pouvaient être à même de ressentir la joie de la délivrance le lendemain lorsque le soleil se lève et se rendent compte que la parole de Dieu s'était réalisée. Qu'il avait frappé l'ennemi et qu'il s'était désormais libre. Je ne le sais pas. Dans quel esprit il faisait la chose? Est-ce que c'était d'une façon mécanique? Est-ce qu'il se rappelait, est-ce qu'il se rendait compte qu'en célébrant, en préparant la Pâque, c'était eux-mêmes l'accomplissement d'une promesse? Tu seras délivré et tu célébreras cela avec tes enfants. Lorsque tu feras ça dans la terre promise avec tes enfants et qu'ils te demanderont, tu leur diras, Dieu nous a délivrés. Donc en pratiquant la Pâque, en préparant l'agneau, c'était l'accomplissement d'une promesse. Est-ce qu'il s'est rappelé de cela? Je ne sais pas. Ce que je sais et ce que j'imagine surtout, c'est qu'ils n'ont pas vécu cette Pâque-là de la même façon que Jésus. Jésus, d'accord, si d'un côté les disciples ils devaient préparer l'agneau qui allait être tué en tant que Pessa, qui était le vrai Pessa, qui était la vraie Pâque qui allait quelques jours après être tué? C'était Jésus lui-même. Et vous comprenez qu'il y a une énorme différence entre la façon de vivre la Pâque de la part des disciples et de la part de Jésus. 12 jours auparavant, et Giuseppe en a fait la mention, seulement 12 jours auparavant, il était chez Marthe, Simon et Marie. Et à cette occasion-là, Marie a oint les pieds du Seigneur. Et Jésus a dit quelque chose. Quand Marie a été critiquée, il a dit, ce qu'elle est en train de faire, c'est me préparer pour ma mort. Il le savait. Marie, en lui lavant et lui essuyant les pieds avec les cheveux, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. J'imagine que ça a été des heures très difficiles à vivre pour Jésus. Voilà, Pessa, c'est parce que quelqu'un d'autre est mort que moi je vis. Ce jour-là, le 14e jour de Nissan, du mois de Nissan, pour la dernière fois, je suis allé manger l'agneau du sacrifice qui avait été établi entre Dieu et Israël pour qu'il se souvienne, pour qu'Israël se souvienne, comment par la foi et l'obéissance, il avait été sauvé. On va passer en revue rapidement les éléments de la Pâque juive selon la Bible en Exode. Israël a été sauvé en effet parce qu'ils ont cru la parole de Dieu, selon laquelle la mort de l'agneau était nécessaire et suffisante pour être sauvé. Ils ont dû le croire. 2. Israël avait accepté de tacher les linteaux et les montants de leurs portes avec le sang de l'agneau, en guise de signes publics et clairs qu'ils avaient mangé l'agneau. C'est ça. Il s'y participait pleinement. 3. Israël avait dû croire la parole de Dieu qui leur assurait qu'il n'aurait pas permis à l'ange destructeur de traverser la porte de leur maison à condition qu'il se place publiquement sous le signe du sang. Ils avaient dû accepter ce Dieu qui s'est proposé comme le rédempteur. Et ils avaient dû agir en conséquence. C'est 14 de Nissan. Jésus, lui-même, par la foi et l'obéissance pleine, il a entamé la dernière ligne droite qui allait l'amener lui-même à devenir, lui, l'agneau pascal, Pessa, qui allait l'amener au sacrifice. Maintenant, essayons de voir la chose. Essayons de nous mettre, si possible, dans la peau de Jésus. Les disciples arrivent, Marc 14, ils lui disent, où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque? Et la Bible dit, Marc nous dit qu'il envoyait deux de ses disciples la préparer. Allez à un tel endroit, vous croiserez quelqu'un qui porte des cruches d'eau, vous le suivrez, et vous lui demanderez, une fois qu'il sera arrivé à la maison, où est la place pour notre maître? Là, vous trouverez, il leur fait une description totale de tout ce qu'il y a. Il va leur dire, là, préparez la Pâque. Déjà, il y a une curiosité intéressante dans le texte. Le texte va continuer, va dire, le soir venu, il est arrivé avec les 12. Et pourtant, il est dit qu'il envoyait 12 de ses disciples. Le seul endroit où l'on peut à peu près imaginer qui c'était ces personnes, c'est lorsque Judas il s'est tué après la Pentecôte, etc. Et Pierre se lève, elle dit, il faut qu'on puisse remplacer pour qu'on soit au complet au numéro de 12, numéro symbolique. Et ils vont dire des conditions. Qui peut prendre la place en tant que disciple et en plus en tant qu'apôtre? Ils vont dire les conditions des personnes qui ont été avec nous et avec le Christ du début jusqu'à la fin. Ils vont trouver deux personnes. Seulement deux personnes qui remplissaient ces caractéristiques. Et le livre d'Actes va nous donner leur nom. Je pense que probablement ces deux personnes dont on mentionne que ces deux ont, de façon particulière, je pense que ces deux disciples-là qui ont été préparés l'agneau. Parce que les 12 nommés comme tels, ils sont toujours nommés comme les 12. Et ils étaient là avec Jésus, finalement, la chambre haute. Finalement, il n'y avait pas que Jésus et les 12, c'était Jésus et les 14. Mais bon, ce n'est qu'un détail du texte. Mais ils vont, ils préparent, et le soir venu, c'était comme ça que Dieu l'avait demandé, ils arrivent. Rappelez-vous que Jésus, il va être aussi, il va mourir l'après-midi aussi. Et imaginez Jésus qui s'approche. Il s'approche vers la chambre haute. Et la première chose que vous ressentez quand on a préparé à manger, c'est l'odeur. Et pour ceux qui mangent la viande et qui aiment manger la viande, et ceux qui aiment les grillades, et ça va bientôt être la saison avec l'été qui arrive, c'est une odeur agréable. Et c'est la première chose que probablement il a remarqué en arrivant, cette odeur, un parfum agréable à l'Éternel. Mais vécu dans les chaussures de Jésus, ces parfums, tout agréable qu'il pouvait être, il présageait quelque chose. L'agneau avait été sacrifié. Et j'imagine donc c'est Jésus qui s'approche et la première chose c'est ce parfum. Ah oui, ça devait lui faire penser à quelque chose d'autre, à son propre sacrifice. Et qu'il s'approche et que c'est intéressant que c'est une chambre haute pour les parallélismes et qu'il monte vers la chambre haute entouré de ses disciples, sachant que quelques jours après, il allait devoir monter vers Golgotha, mais cette fois-ci, tout seul. Et j'imagine s'approchant vers la porte avec les gardes, le montant et l'anton en bois, et le voir taché de sang. Et savoir que quelques heures après, c'est avec son sang que lui-même il allait tacher le bois, le montant, le vertical et l'horizontal. Je pense que rien que le fait d'aller célébrer cette dernière scène avec ses disciples, s'approcher, à mon avis, ça n'a pas été facile. Mais je suis devant la porte, il n'a pas hésité, il entre. Rien n'aurait pu l'empêcher d'entrer. Et rien, personne n'aurait pu non plus le forcer. Il entre. Il entre en sachant ce qu'il doit faire. Et il entre et un peu en accomplissement de ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 18. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Et on pourrait mettre cette affirmation avec une autre affirmation qu'il a dit. Je donne ma vie moi-même pour que vous puissiez avoir la vie. Et l'avoir en abondance. Jésus entre donc dans la chambre haute. Et je pense à quelque chose d'intéressant. En Égypte, lors de la première Pâque, un ange puissant, nommé les destructeurs, devant le signe de la croix, devant le signe du sang, il n'est pas capable de pénétrer dans ces maisons-là. Les personnes qui ont placé leur foi dans la parole de Dieu et qui ont obéi à ses instructions ont été sauvées par la voix. Et cet ange-là, tout puissant qu'il était, devant ces portes-là, il n'y pouvait rien. Et je vois Jésus dans toute son humilité traverser lui-même volontairement cette porte, pas pour détruire, mais pour sauver. Cette année-là, les disciples avaient cru préparer Pessa. Mais en réalité, c'est Jésus qui avait déjà tout organisé. La chambre, grande, spacieuse, était réservée. Tout le nécessaire s'y trouvait. Les disciples, certes, ont préparé l'agneau, Pessa, mais le vrai agneau qui ôte le péché du monde. C'était Jésus lui-même. prenez ceci, c'est mon corps. A dit Jésus en partageant le pain, vous vous rappelez? Il avait prononcé une prière de bénédiction. Et tous les disciples en ont mangé. Jésus leur a aussi donné la coupe. Vous vous rappelez, en Corinthiens, l'apôtre Paul nous raconte, il leur a donné la coupe. Il a remercié pour cette coupe. Tous les disciples ont bu. Le symbole de l'ancienne alliance n'y était plus, ils avaient mangé l'agneau. À la place, il y avait Jésus. Et Jésus en introduisant les nouveaux symboles. Aujourd'hui, dans cette période, nos amis et frères chrétiens autour de nous célèbrent la Pâque. Et cette année en particulier, la Pâque des chrétiens coïncide dans les calendriers avec la Pâque juive. Ce n'est pas toujours le cas, mais cette année-ci, on est dans la même période. Je pense que c'est important de pouvoir entrer en dialogue avec eux. Je pense que c'est important de pouvoir partager ce sentiment de reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu, qui a pourvu le moyen, le seul, pour notre délivrance. Que l'on soit juif ou chrétien, peu importe la profession de foi qu'on ait faite. Lorsqu'on célèbre Pessah, et nous en tant qu'adventistes, on le célèbre chaque fois qu'on fait la Sainte Cène, lorsqu'on célèbre Pessah, nous invoquons la présence du Christ. Nous demandons à Jésus, notre Pessah, notre Pâque, d'être présent dans la personne de l'Esprit Saint. Le sens de Pâque, vécu par la foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est notre confession. C'est notre façon de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je veux vivre avec toi. Jésus, je veux vivre une relation réelle avec toi qui est ma Pâque. Si nous devions célébrer aujourd'hui même la Pâque, tout comme les Juifs, nous devrions remplir quelques critères. Et voici quelques saints. Lorsqu'on célèbre la Pâque, nous disons que nous croyons, selon la parole de Dieu, que la mort de Christ était nécessaire et suffisante pour nous sauver. Nous disons que nous acceptons par la foi de placer publiquement nos vies et nos familles sous le signe du sang du Christ. Nous disons que nous croyons en la promesse selon laquelle nous n'avons rien à craindre de la mort, comme l'appelle la première mort, puisque par le baptême, nous sommes désormais morts et ressuscités en Christ, notre Rédempteur. C'est pour ça que chaque fois qu'on célèbre la Pâque, la Sainte Cène, c'est aussi une invitation pour tous ceux qui n'ont pas encore fait une alliance, un pacte par le baptême avec le Christ, à la faire. C'est une invitation très forte qui dit « Place-toi sous le signe de l'agneau, sous le signe de son sacrifice. Mets ta confiance pleine en lui pour qu'il soit capable de te délivrer. » Comprendre le sens de Pâques est important. C'est déclarer notre foi en Jésus, c'est aussi s'engager à agir en conséquence. Comprendre la Pâque, le Christ sur la croix, je pense que c'est la seule façon de vivre, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Puisse la réalité du Christ ressuscité par la puissance de l'Esprit être quelque chose de concret dans notre vie à nous tous. Puissions-nous vivre non plus comme nos propres petits rois dans nos vies, mais puissions-nous vivre nos vies en sorte que ce soit le Christ qui vit et qui règne en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.